Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui Caroline Le Cire à l'occasion des 10 ans Happiness. Caroline Le Cire qui a coécrit avec Alexandra Huguetto le livre Donne-moi des ailes et elles ont lancé également le podcast et vous les avez découvertes dans le numéro de décembre avec une première chronique et vous les retrouverez régulièrement dans le magazine avec des partages et des transmissions. Bonjour Caroline.
Bonjour Nathalie, merci pour cette invitation.
Avec plaisir. Et donc aujourd'hui, tu es venue partager avec nous tes inspirations, réflexions, ressentis sur le thème de trouver sa voie.
Oui, tout à fait. Écoute, moi je trouve que c'est un thème qui n'était pas forcément un thème évident. Pour moi, il m'a fallu un petit peu de temps pour trouver justement cette voie et j'ai l'impression que plus je navigue dans ce continent du matrimoine, plus je me nourris d'histoires justement de femmes inspirantes et de trajectoires tellement différentes les unes des autres, je me rends compte que finalement, peut-être que la première réponse que je pourrais donner ou la première réflexion, ce serait il n'y a vraiment pas une seule voie. Il n'y a vraiment pas une seule voie et souvent j'ai l'impression que quand on se met voilà, en tête de réfléchir à ce qu'on appelle parfois cette vocation, ça peut être très intimidant et parfois très insécurisant de se dire, mais moi, je n'ai pas encore trouvé ma voie, je ne sais pas encore exactement ce qui résonne en moi. Et de tout ce qu'on a pu découvrir, tout ce qu'on a pu lire à travers déjà une saison de podcast et puis tout le travail qu'on avait fait déjà pour concocter ce livre, Donne-moi des ailes, c'est de se rendre compte que finalement, beaucoup de ces histoires, elles prennent sens après coup. Et donc, on peut vraiment lâcher la pression, on peut se dire que finalement, on peut choisir l'influence qu'on aura. On a une influence sur les gens, notre vie, elle fait vraiment sens. Il n'y a pas besoin de se comparer parce qu'on est vraiment élevé
Oui.
dans ce récit de la comparaison, de
Oui.
l'immédiateté. Et donc ça, je pense que vraiment, nous, on a conçu en tout cas le matrimoine comme un outil, comme un tremplin vers plus de liberté, mais pas comme un outil de comparaison et de complexe. Et donc je pense que ça peut être vraiment guérisseur pour beaucoup d'entre nous quand voilà, on n'a pas encore trouvé tout de suite ce qui fait sens pour nous, qu'on bégaye un peu, qu'on ne sait pas très bien ce qu'on voudrait faire. Donc voilà, une première chose que je pourrais dire peut-être, c'est que voilà, c'est normal ça fait pas toujours sens tout de suite et souvent les choses se mettent ensemble après coup. Donc il faut pas s'inquiéter si quand on est en train de cheminer comme ça dans la vie tranquillement, les choses ont l'air d'avoir pas beaucoup de sens, pas beaucoup de liens les unes avec les autres. Après coup, souvent ça fait sens.
Et alors justement, vous, Alexandra et toi, quand vous avez trouvé votre voie d'écrire ensemble ce livre Donne-moi des ailes, donc Donne-moi des ailes, E2LES, ça s'est passé comment le fait de trouver ce chemin, de trouver cette voie qui permet du coup d'ouvrir plein d'autres voies pour les
Oui,
femmes?
bah, écoute, moi je vais parler en mon nom parce que je crois qu'on n'a vraiment pas la même expérience, Alexandra et moi. Ce qui a été très grandissant, je ne sais pas comment le dire, vraiment ce qui a été très porteur pour moi dans mon histoire, là où je me trouvais, puisque j'avais déjà évidemment fait pas mal de choses, comme nous toutes et tous, en fait, on fait tout le temps plein de choses, mais c'est juste qu'on ne voit pas toujours. Et puis on est souvent, tu vois, dans la société qui est la nôtre, le nez dans le guidon. Et donc voilà, là où j'en étais, j'avais notamment créé avec Ilios Kotsou l'association Émergence. On avait ce projet d'application présence. C'était vraiment dans ce moment-là qui était déjà un moment de rush. Et c'est vrai que moi, dans tous ces projets, j'étais plutôt celle qui agit dans les coulisses. J'étais vraiment celle grâce à qui finalement l'association fonctionne, la reine de l'administration. Et vraiment, c'était vraiment un choix qui était un non-choix, mais qui était tout à fait OK pour moi. Le duo fonctionnait super bien comme ça. Et c'est vrai que quand on s'est trouvé, Alexandra et moi, c'était un total hasard, puisqu'on s'est retrouvés sur un plateau de radio. J'ai été présenter un livre qu'on avait coordonné avec Ilios en lien avec une journée émergence qui s'était déroulée l'année précédente, puisque tu le sais, on écrit souvent des livres après certaines éditions des journées émergence. Je me suis retrouvée sur ce plateau radio vraiment par hasard, et vraiment avec Alexandra, ça a été un bunch d'amitié, et on a commencé à réfléchir à cette réflexion de la place des femmes, tous les conditionnements, les stéréotypes, les préjugés. Et c'était vraiment intéressant parce que moi, je n'étais pas du tout dans une... Il n'y avait aucun mal-être. Et c'est une quête qui a été très, très nourrissante, qui a fait vraiment évoluer beaucoup le duo que je forme avec Ilios Kotsou, donc avec, qui est mon amoureux et qui est mon partenaire de travail. Et ça a été vraiment chouette parce que ce qu'on a constaté, c'est qu'Ilios, ça faisait des années qu'il me disait d'aller plus dans la lumière. Il me disait vraiment qu'il avait envie que je présente, par exemple, avec lui les journées émergences, que ça lui mettrait beaucoup moins de pression sur les épaules, qu'il ne soit pas le seul à monter sur scène entre les interventions. Et moi, je lui avais toujours dit, écoute, tu sais, moi, animer des groupes de 30 personnes, 50 personnes, vraiment, j'adore. J'ai vraiment trouvé ma place. J'aime beaucoup animer les groupes de pleine conscience. Mais alors, plus que 50 personnes, vraiment, ne me demande pas ça. Et c'est rigolo parce que ça s'est fait tout en douceur. Finalement, c'est comme si ce que je lisais pour écrire ce livre, les exemples finalement qui arrivaient dans mon champ de vision, me poussaient, mais vraiment tranquillement dans le dos, puisqu'on a mis 3 ans à écrire ce livre, puisqu'il a été concomitant avec le Covid, etc. Donc on a vraiment pris le temps de mener cette aventure avec vraiment beaucoup de lenteur. Et c'est rare qu'on puisse faire des projets dans la lenteur. Et en fait, ça s'est vraiment accompagné, dans mon cas, vraiment d'un changement d'orientation ou finalement d'un changement de posture. J'ai vraiment pu trouver une voie, et finalement une voie aussi VOIX, puisque j'ai finalement plus exprimé ma voix aussi, une voix finalement que je déployais, puisque j'ai écrit les newsletters. Enfin, finalement, ma couleur, elle était déjà présente, mais elle était vraiment très, très discrète. Mais vraiment, à nouveau, c'était un choix qui n'était pas un choix, mais ça venait vraiment de moi. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas du tout Ilios qui me disait « À moi la lumière, s'il te plaît,
reste. » Non, bah, tu n'es pas comme ça, Ilios. Clairement pas.
Non, ce qui est rigolo, c'est que... Non, mais c'est marrant parce que ça aurait pu... Il y a des duos. Enfin, oui. Voilà, chaque histoire est différente, chaque histoire est singulière. Et ce qui est marrant, c'est que finalement, Alexandra, elle est venue dans cette histoire pour un projet qui est propre aussi, mais qui est venue chambouler, mais avec beaucoup de... Finalement... Ça fait du bien à tout le monde, finalement. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, moi, ça a vraiment été une... Oui, vraiment. Donc, finalement, Donne-moi des ailes, c'est quelque chose qui a beaucoup de sens pour moi aujourd'hui, parce que ça s'est accompagné d'un changement très fort dans ma posture et donc dans la manière dont on travaille ensemble avec Ilios. Et enfin, voilà, je parle beaucoup, excuse-moi, mais...
Bah, c'est l'objectif, quand même, de l'interview, hein. Parce que non, quand je t'ai proposé ce thème-là, c'est parce que je savais très bien que le livre et le podcast étaient ce que vous aviez envie de partager, Alexandra et toi, pour aider à semer des graines pour les lectrices et les lecteurs, parce que ça peut aussi concerner des lecteurs. Pour déployer leurs ailes, parce que le féminin existe chez l'homme de la même façon que le masculin existe chez la femme, anima animus. Et donc, du coup, c'était, voilà, pour moi, c'était une évidence que tu parles de ce projet, parce que il existe aujourd'hui sous forme de livre, il existe sous forme de podcast, mais il est beaucoup plus vaste que ça, parce que c'est toute l'histoire de notre lignée et l'influence que les femmes ont autour d'elle, la façon dont elle rayonne a des influences excessivement fortes sur toute la société. Donc plus on prendra conscience de ça et plus on pourra cheminer dans cette voie d'épanouissement, et plus on verra des bénéfices extrêmement puissants sur le monde qui nous entoure. Le pouvoir de la femme a toujours été colossal, même inversé, même dans la contrainte, même muselé. Si la femme n'était pas détentrice d'un pouvoir colossal, il n'y aurait jamais eu de raison de la museler. On ne muselle pas, enfin, on ne fait pas porter un chien qui n'est pas dangereux. Donc, le fait qu'il y ait eu tout voilà, que la femme ait été réduite au rang d'objet, et que d'ailleurs quand je suis née, on était loin d'être voilà de c'est pas par hasard, mais on est tellement habité par ces, ça fait tellement longtemps que qu'il faut un travail colossal pour retourner à des endroits, parce que même moi qui suis née libre, avec une mère qui m'a poussée à l'autonomie au maximum pour être sûre que jamais je ne dépende matériellement d'un homme et que j'ai toujours une autonomie financière, voilà, que je sois capable de me nourrir, de me vêtir, d'avoir un toit toute seule et le reste, c'est du surplus. Malgré tout, je me surprends à avoir des réactions où je me dis « mais c'est du conditionnement, c'est complètement absurde ». Et notamment en discutant avec Ilios, qui n'est pas du tout là-dedans, parce qu'Ilios, il a un regard sur la femme qui est très ouvert. Ou avec mon compagnon qui, pareil, a un regard sur la femme qui n'a rien à voir. Mais donc, du coup, oui, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur le livre et le podcast, parce que j'aimerais vraiment que toutes nos auditrices et nos auditeurs aient envie de se jeter dessus. Non, mais c'est vrai, pour ouvrir, voilà, pour ouvrir le plus de chemin possible vers un processus qui est un processus de réconciliation, en fait.
Oui, voilà. Bah oui, parce que pour faire le lien avec ce que je partageais précédemment de ce qui a été ma quête à moi et qui a été accompagnée par ce projet, c'est que ça s'est fait avec beaucoup de douceur et finalement, c'était une quête très intime. Comme tu le disais à l'instant, en fait, c'est là aussi, j'avais déjà pris conscience, mais c'est vraiment en relisant l'histoire autrement. Et puis, j'ai par la suite, enfin, plus ou moins au même moment, entamé et terminé des études de genre, c'est qu'on se rend compte de tous ces conditionnements, tous ces freins qui sont vraiment à l'intérieur. Ça n'avait rien à voir finalement avec les autres. C'était même finalement là, vraiment, ça sommeillait en moi. Et donc, Donne-moi des ailes, ce projet, il est en effet constitué d'un livre qu'on a donc sorti il y a un an, qui est paru aux éditions Jouvence. Et ce livre, c'est vraiment une aventure où on va essayer de comprendre ce qui se passe. Pourquoi, dans l'histoire, c'est ce que tu as dit, pourquoi en fait on a tellement mis sous silence, on a vraiment effacé avec beaucoup de méthodes et vraiment de manière répétée. Ça ne peut pas vraiment s'appeler un accident de l'histoire, c'est que non, vraiment, non, vous non, allez non, le voir et on le raconte avec beaucoup d'humour et de légèreté. Et heureusement, je pense qu'on a pris ce ton-là parce que c'est quand même par moments vraiment très douloureux, en fait. Et donc, on s'est dit, voilà, on va reprendre à la base, on va regarder comment ça se passait. Alors, évidemment, nous, on parle de l'histoire occidentale, qui est notre histoire, on va dire, à Alexandra et moi. On pourrait parler de tout ce qui s'est passé. Malheureusement, finalement, comme tu le dis, le fait d'opprimer les femmes, c'est vraiment une constante sur tous les continents. Mais voilà, nous, on s'est focalisé sur l'Occident. Et donc, on a dit, voilà, on va regarder ce qui s'est passé, parce qu'à l'époque des Celtes, par exemple, si on reprend, on aurait pu remonter encore plus loin, mais il y avait quand même, les femmes avaient des droits. Elle pouvait faire toutes sortes de choses. Et puis, c'est vraiment au moment de l'Empire romain, quand il y a eu cette conquête romaine sur l'Empire celte. Là, il y a vraiment, ça a commencé vraiment à sentir assez mauvais pour les femmes qui ont vraiment se sont vues retirer tous les droits qu'elles avaient. Et puis, ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois qu'en fait, il y avait des avancées, il y en a eu vraiment à plein de moments, il y a eu des avancées, il y avait des législations. Comme tu le dis, vraiment, il y a cette... Alors, nous, on n'a pas voulu aller dans l'explication, tu vois, j'allais aller dans une explication. En fait, on n'a pas voulu aller dedans parce qu'on se dit, en fait, il y a vraiment, il y a matière encore à... On ne voulait pas raconter des carabistouilles, donc on s'est dit, nous, on va plutôt dépeindre la situation parce qu'en fait, on nous a tellement bercé de mythes, tu vois, un des mythes qui est assez fréquent. Moi, quand j'ai commencé à expliquer notre projet, c'était qu'on nous disait... tu vois, par exemple, nous, on invite beaucoup d'orateurs et d'oratrices chez Émergence et je leur disais, bah, tiens, quand on regarde les recueils de philo, de psycho, etc., c'est tout le temps des auteurs, les citations qui sont dans les livres, y compris les livres Émergence. Hein, franchement, à part le dernier, c'était tout le temps des citations d'hommes. Et donc voilà, je disais, mais vraiment, c'est fou qu'on ne trouve pas ces femmes qui pourtant ont existé. Et là, vraiment, l'argument massue qui a vraiment été intériorisé par tout le monde, hommes et femmes, c'était... Ben oui, les pauvres, elles avaient tellement la charge de tout qu'elles ne pouvaient pas créer en même temps. Et ça, vraiment, ça a été une révélation. C'était une révélation pour Alexandra et moi et pour beaucoup de personnes qui nous reviennent après avoir lu ce livre, parce que le livre insiste là-dessus, c'est ça les gars, ça les filles, c'est des carabistouilles. Oui, en fait, il y a des tonnes et des tonnes de... Enfin, des tonnes, c'est bizarrement dit, mais vraiment un nombre vraiment immense de femmes qui, depuis des siècles, ont peint, ont créé, ont fait des aventures, elles ont inventé des choses incroyables. Et ce qui est fou, c'est qu'on les a effacées, on les a jugées, parfois on les a tuées pour ce qu'elles découvraient. Et puis surtout aussi, les hommes se sont attribués leur découverte. On a vraiment... listé dans le livre des inventrices qui finalement n'ont pas reçu le prix Nobel, c'est leur mari ou c'est le chef de labo qui a reçu, des femmes autrices qui ont écrit des pièces de théâtre qui ont finalement après été publiées sous le nom d'homme. Ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est répété. Et nous, on le...
Une très, 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 très connue, c'est George Sand.
Bien sûr, bien sûr. Exactement. Et ce qui est fou, c'est que ce qui donne beaucoup de joie, vraiment, ce qui nous donne beaucoup de joie, c'est que là, on voit que pour l'instant, on est en train de se rendre compte. Il y a vraiment une prise de conscience. Il y a beaucoup d'expositions, par exemple, qui sortent dans les musées. Il y a des livres qui sortent thématiquement sur les femmes artistes, sur les femmes autrices. Il y a vraiment un mouvement dans le cinéma. On prend conscience de cet aveuglement généralisé. Et nous, ce qu'on a trouvé vraiment intéressant, c'est qu'on n'est pas du tout en train de blâmer les hommes, parce que à un certain moment, on s'est un peu amusé, on a mis des citations, tu vois, de gens assez connus qui ont dit vraiment des grosses énormités, mais au fait, c'était vraiment l'époque. Et donc l'idée, c'est de dire que, tout comme là, je disais, ben moi, c'était moi-même qui était en train de m'enfermer en me disant, ben non. Voilà, moi, je suis hyper efficace en coordination, je vais pas faire autre chose, je ne vais pas sortir de mon rôle. Mais en fait, souvent, c'était vraiment, c'est vraiment systémique. Et le fait qu'on puisse tourner le regard et se rendre compte que tout ça est systémique, bah donc on peut contribuer à changer le système. Et donc, c'est vraiment l'élan du livre, donc, qui vraiment, ça s'appelle « Donne-moi des ailes », puis on dit « En quête du matrimoine », c'est le fait de se, comme tu disais, de se relier à cet héritage qui est vraiment puissant. Au fait, c'est vraiment pas anodin. On le sent dans notre corps, en fait, on se dit waouh. En fait, avant de lire ce livre, j'étais incapable, enfin, avant de le lire et avant de l'écrire, j'étais incapable de citer je sais pas, des navigatrices, des femmes qui ont pu être des grandes scientifiques, etc. Vraiment, quand on. Et c'est fou, hein, donc on le montre, que ce soit dans l'éducation nationale française, en Belgique, etc., les manuels scolaires
ne sont pas du tout. Oui, j'étais en train de penser là sur la.
Oui, vraiment, il y a très très peu de références. Et à nouveau, l'idée, c'est que comme c'est un aveuglement général, c'est pas une mauvaise volonté des inspecteurs, des inspectrices, c'est vraiment, on le voit pas. Et donc, nous, et ce qu'on a vraiment voulu, et ça, c'est vraiment grâce à Alexandra, parce que moi, je suis un peu plus, j'étais un petit peu plus révoltée, c'est vraiment, on a fait ça avec douceur, parce que c'est vrai que moi, j'ai pu constater que le changement qui s'est opéré chez moi, ça s'est fait grâce à la douceur.
Il n'y a pas de combat, il n'y a pas d'histoire de revendication.
Pas du tout.
Les femmes ont été muselées, mais elles se sont aussi laissées museler.
Bah bien sûr, parce qu'il y avait pas de modèle, parce qu'il y avait pas de. Et donc voilà. Donc nous, en fait, on a vraiment embrassé cette quête, vraiment, de dire, mais voilà, vous rendez-vous compte que en regardant votre bibliothèque, vous voyez, j'ai une grande bibliothèque derrière moi. Bah moi, j'ai vraiment fait cet effort de dire, ben tiens, dans le rayon, on avait tout un rayon avec des poètes. Et ben il y avait que des hommes. Et ben je me suis dit, je vais aller regarder. Donc j'ai acheté une anthologie de poésie. Et là récemment, parce que tu parlais du podcast et je vais y venir, on a interrogé tout récemment Nash. Anna Chédid, qui nous a présenté évidemment parmi les deux femmes qu'elle a mises en lumière sa grand-mère, Andrée Chédid. Eh ben voilà, j'ai acheté cette anthologie de femmes poétesses et j'ai découvert des merveilles. Et voilà, moi j'adore comment il s'appelle, Christian Bobin, je ne renais plus sur son prénom, mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai envie qu'on ait d'autres citations que Christian Bobin. Et donc je me suis dit, ben c'est chouette que moi-même, donc c'est tellement une démarche positive de me dire, ben j'ai envie de me nourrir aussi d'aller me relier à toutes ces femmes qui ont écrit. Et c'est vrai que c'est très, très beau. Anna, justement, elle nous lisait un extrait d'un texte de sa grand-mère. Et c'était beau. Elle disait à quel point, c'était Andrée Chédid, elle est vraiment connue des personnes qui aiment la langue française et la poésie. Mais pour le reste, elle n'est pas très connue du grand public. Alors, les gens, ils tiltent, ils entendent Chédid. OK, Chédid, Louis Chédid, Mathieu Chédid. Mais on ne la connaît pas pour ses textes, en fait. À part les gens qui vraiment aiment à nouveau la littérature. Et donc, elle est connue des personnes qui s'intéressent. Et donc justement, pour expliquer le lien entre le livre et le podcast, donc nous, en fait, le projet a commencé par le podcast. Et puis finalement, c'est en faisant les recherches, on s'est dit, oh non, mais oh là là, c'est trop grave. Il faut vraiment qu'on explique pourquoi on a tant de mal à trouver de l'inspiration. Et donc le choix du podcast, donc chaque mois, on interroge une personnalité. On alterne un homme, une femme, parce que je te l'avais expliqué, c'est hyper important pour nous que cette quête, elle se fasse ensemble, parce qu'on est toutes et tous concernés. On manque, en fait, toutes et tous d'inspiration au féminin. Et donc ça nous a vraiment marqué très souvent. Par exemple, pour le citer, Bernard Campan, qui est notre invité en novembre, vraiment, lui, il a accepté finalement d'être notre invité parce qu'il ne trouvait pas d'inspiration au féminin, au fait. et donc, c'était génial parce qu'il nous a dit vraiment, parce que voilà, il reçoit des tonnes de demandes d'interviews, il nous a dit vraiment, ça m'a challengé de me dire comment ça se fait que je suis pas capable comme ça de trouver des femmes qui m'inspirent. Bah, depuis, il en a trouvé plein, hein. Mais donc, c'est ça qu'on adore, c'est de se dire, moi, j'ai pas fait exception. Donc, Alexandra avait une autre histoire, elle était passionnée par le sujet. Moi, honnêtement, voilà, les livres émergents, je les ai co-écrits. Vraiment, ça ne me faisait rien. Je ne me rendais pas compte qu'il n'y avait pas de citation de femmes. Et donc, c'est ça qui est chouette, c'est de se dire, on n'est pas en train de montrer du doigt les personnes
non.
qui n'ont pas...
Non, on est en train de retisser l'histoire oui. derrière. Parce que ça a existé. Donc, on la retisse. Et du coup, on tisse autrement celle de devant et celle de maintenant.
Exactement. Et ça aide vraiment. Et donc, le podcast, c'est ça. Donc, ce qui est chouette, c'est que dans le podcast, on ne va pas justement aller dans l'explication. C'est vraiment un podcast inspirationnel. On se dit, c'est vraiment des épisodes où on se sent bien, où on va vraiment... Il y a cette invitée qui va nous révéler finalement deux grandes inspirations de sa vie, de sa carrière, qui sont des femmes. Ça, c'est la seule condition qu'on leur demande. Et donc, grâce à lui ou grâce à elle, on apprend à mieux connaître cette femme. Alors, on demande toujours que ce soit une femme qui est connue dans le sens où nos auditeurs, auditrices peuvent aller chercher, oui. peuvent aller apprendre, mais pas non plus les femmes les plus connues. Sinon, bon, il n'y a pas de plus-value. Et c'est vraiment une belle aventure, très complémentaire finalement. Donc, c'est vrai que pour les personnes qui ont envie de découvrir le projet, ben voilà, il y a ce podcast qui sort tous les mois. Et sur le site internet, donc donne-moi-des-ailes.fr, on trouve aussi plus d'informations sur ces femmes. Donc, on a une journaliste qui s'appelle Mélissa Chemam qui rédige des biographies vraiment conséquentes. Parce que voilà, notre idée, c'est que ça sert vraiment à nourrir l'inspiration de chacun, chacune.
C'est un magnifique projet. Et c'est fou que ça ait mis autant de temps à émerger. Parce que c'est vrai que quand on a lancé Happiness il y a 10 ans, pour moi, c'était vraiment un magazine particulier. Parce que il était, je le souhaitais, un accompagnant sur le chemin de la réunification, de la réunification féminin-masculin, intérieur-extérieur. Et donc, du coup, dans Happiness, évidemment, il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de posture de combat, de revendication, de etc. Parce que c'est pas le sujet. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui vont m'indigner, qui vont me faire hurler, dresser les cheveux sur la tête, etc. Mais là, c'est exactement ce que tu disais, c'est dans la douceur. Parce qu'on ne construit pas, on ne peut pas dire qu'on est révolté par la guerre si on commence soi-même à être dans une posture qui dégage une énergie négative. Et le combat, c'est une énergie négative. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas... voilà. Si on est là aujourd'hui, toi et moi, pour en parler, c'est parce qu'il y a des femmes avant nous qui ont eu cette posture de combat. Et il y a encore des femmes qui l'ont aujourd'hui. Mais voilà, il y a de la place pour toutes les initiatives. Et la vôtre, comme celle d'Happiness, est une place volontairement choisie pour être sur le cheminement positif et de l'inspiration. Nous, on n'est pas dans le combat.
Ça. Exactement, c'est ce que tu disais, en fait. Et ça revient avec cette... tu disais, le thème un peu de notre échange, c'était trouver sa voix. Et c'est vrai que nous, on a trouvé avec Alexandra cette voix qui est une voix en même temps dans la douceur et dans l'inspiration. Et qui est très... voilà, on a vraiment des échos de personnes qui, en fait, ça titille leur curiosité, en fait. Et donc, finalement... Parce que les gens sont, comme je le disais avec Bernard Campan, les gens sont challengés, les gens, finalement, ils rentrent dedans avec, finalement, ils sont d'accord, puisqu'ils voient à l'intérieur. Donc, c'est ça qu'on trouve beau, en fait. C'est que c'est pas, on n'est pas en train de culpabiliser, comme je le disais, ou de dire, il y a quelque chose que vous avez mal fait, ou comment c'est possible que vous n'avez pas encore lu de livres de femmes. C'est pas du tout ça, c'est dire, tiens, et juste allez jeter un coup d'œil à votre bibliothèque. Et si vous allez, et donc c'est vraiment, je trouve que c'est, enfin moi, ça me procure beaucoup de joie, au fait, tant de le faire, que d'avoir tous ces échanges ensuite avec les personnes qui nous lisent ou qui nous écoutent.
Alors justement, là, on va arriver à la fin parce que l'idée quand même de ces petites interviews, c'est que ce soit des formats courts, que vous puissiez les écouter, les réécouter, les partager, que ça vous inspire, mais pas que ça vous… voilà. Et donc là, on arrive à la fin. Alors, comme je le dis à chaque fois, je ne sais pas si vous les regarderez toutes, mais nous enregistrons encore en 2023. Quand vous allez les regarder, on sera déjà en 2024. Et du coup, pour le mot de la fin, Caroline, je vais te demander qu'est-ce que tu souhaites pour 2024 à toutes nos auditrices et nos auditeurs.
Alors, moi, ce que je souhaite vraiment, C'est que. Alors, on doit souhaiter pour les auditeurs.
Ben oui, pour nous, pour le monde, pour tout.
Pour le monde. Alors, moi, ce que je souhaite pour le monde.
Tu sèmes une graine comme ça.
Voilà, je sème une graine. Mais moi, ce que j'aimerais vraiment, vraiment, en cette fin d'année 2023, c'est que les personnes qui sont aux manettes du monde pour l'instant puissent sortir le nez, la tête du guidon, qu'ils puissent aller de temps en temps dehors, regarder les étoiles, se rendre compte de la place de l'humain dans l'univers. Et se reconnecter vraiment, moi j'anime à côté de Donne-moi des ailes, des ateliers de reconnexion au vivant. Et j'aimerais tellement vraiment que ces personnes qui sont tellement voilà, dans l'urgence et qui prennent, je trouve en ce moment, pas des très très bonnes décisions pour la survie de la planète, puissent s'arrêter. Et c'est ce que je souhaite finalement à chaque auditeur, chaque auditrice, c'est que dans le brouhaha du monde, qu'on puisse s'offrir parfois des petites parenthèses pour aller se relier à la nature. Au vivant, regarder un coucher de soleil, regarder la pleine lune ou la nouvelle lune, aller se promener en forêt seul ou avec un ami, un amoureux, les enfants, pouvoir se recharger les batteries parce qu'on est tellement assaillis de nouvelles qui sont assez oppressantes. Voilà, je pense que le fait de se relier, de sentir sa place dans tout l'univers et tous les vivantes et les vivants qui partagent la Terre avec nous, ça peut vraiment nous faire du bien dans la tête, mettre un peu de distance avec toutes les émotions, faire du bien au cœur et puis faire du bien au corps parce qu'on sait à quel point le fait de plonger dans la nature et penser quelque chose, ben ça fait du bien à chacune de nos cellules. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup que les dirigeants le fassent et les dirigeantes un petit peu plus pour qu'ils prennent des décisions justement qui protègent la vie. On en a besoin.
Merci beaucoup, Caroline. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. À bientôt.
À bientôt.